Nous sommes dans Tzadi Gimel Amud Bet, Sanhedrin, Tzadi Gimel Amud Bet. La dernière chose qu'on a commencé à parler, c'était Boaz qui donnait à Ruth 6 orges. Et la Gemara a demandé de quel genre de quantité. Ça ne peut pas être des saïnes, ça fait 90 kilos. 6 saïnes, c'est beaucoup trop. Donc c'est 6 grains d'orge. Et les 6 grains d'orge, bien sûr, c'est faire une allusion de 6 descendants de Ruth et de Boaz, que chaque descendant, il aura 6 qualités. David, Mashiach, Anania, Michaël, Vazari, Daniel, des personnes extraordinaires qui jouent un rôle dans la royauté du peuple juif. David jouait un rôle de royauté juive, bien sûr, Mashiach. Daniel était le premier ministre, Hanan, Michel, Vezaria. Il gérait le monde Goy. C'était le tzadikim du peuple juif, il gérait le monde Goy. Ça veut dire qu'en vérité, Ruth, elle venait du monde Goy. Elle était convertie du peuple de Moab. Boaz était de la tribu de Yehuda, du peuple juif. Et ça crée un zivoug, ça crée un mariage entre une partie goy, une partie juive, parmi les meilleurs de la descendance goy, parmi les meilleurs de descendants juifs dans la royauté. Et ça donnait une royauté avec une double force. David HaMelech était le roi du peuple juif et il régnait sur le monde goy aussi. Le monde entier craignait David HaMelech. Et Mashiach aussi, il règne sur les Juifs et sur le monde Goy, ainsi Daniel, Hanani, Mishael, Vazaria. Quand David HaMelech, quand Naomi, elle a dit à Ruth, pars ce soir dans la tente de Boaz, Inehug, Zore, Goren, Sorim, Halaila, cette nuit, il est en train de Zore, ça veut dire Vané, sa grange, d'orge, à l'aïla cette nuit, c'est bien sûr une signification de la même façon que les 6 grains d'orge qu'il vient de vanner représentent les 6 chefs du monde qui gouvernent le monde goy, le monde juif dans la Torah. Alors vanner veut dire faire envoler les débris, la paille, l'écorce. C'est-à-dire chaque grain d'orge est enveloppé par une enveloppe qui est importante pour protéger. Mais cette protection, une fois que le grain d'orge est complet, a bien mûri, on n'a plus besoin de la protection. Alors on jette tout dans l'air et le vent il emporte la saleté et la graine tombe par terre. Ça c'est comme ça on fait quand on prépare la nourriture, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit ici vanner, ça veut dire faire sortir les personnes qui ont le droit de régner sur le monde et faire emporter le psolète. Tous les psolètes qu'il y a dans le monde, comme Moab, il y avait beaucoup de psolètes avec Lot, avec toutes sortes de péchés dans le peuple de Moab. Ça se fait emporter. Boaz, ce soir, il est en train de vanner, de trier entre le bon grain et la saleté, l'ivraie et le bon grain. Elle a dit, Naomi, ce soir, il le fait. Boaz, il prépare la construction de la royauté juive. La royauté juive, pour quelques générations David, et le Olam va être. C'est le moment, il faut venir. Et là, les 6 grains qui sont tombés par terre, que lui, il a donné, donc, dans le mitzpachat, il a donné dans le tissu de Ruth, il lui a transmis ici, à Ruth à Moavia, ces 6 personnes. Alors, nous avons parlé que David HaMelech, il avait 6 qualités. Et 6 qualités, ils sont sortis de la bouche de Doeg, de son ennemi juré. Celui qui a parlé de ses 6 qualités afin de provoquer la jalousie de Shaoul à son égard. Alors, on va continuer. Le deuxième était Mashiach. Et pour Mashiach, on a dit, il a aussi dit six qualités. Le prophète, il dit, « Menacha alav ruach Hashem, va résider sur lui l'Esprit de Dieu, ruach chokhma ubina, ruach eitza gvura, ruach dat virat Hashem, ve heiricho virat Hashem. » Alors, on était dans ce phénomène de « heiricho virat Hashem ». C'est quoi « heiricho » ? Alors, Rabbi Alexandre, il a dit, mais la mèche itino mitzvot visurim kerechaim. Le mot heiricho vient du mot rechaim. Rechaim, donc c'est un moulin. Le moulin aussi, le but du moulin, c'est de prendre le grain et d'enlever la dernière écorce qui se trouve sur le, qui se trouve sur le grain. Zoré, c'est la paille, la grande saleté. Et après, sur l'écorce, sur le grain de blé ou de l'orge, il y a encore une écorce. Et cette écorce, on enlève dans le moulin. Et ce moulin-là, il s'appelle Rechaim. Et ce moulin vient de Yisurim. On dit que Melamed Chitino Mitzvot, Yisurim Kerechaim. Dieu charge Mashiach avec un paquet de Mitzvot et de Yisurim de souffrance. Kirechaim comme un moulin pour faire sortir la bonne farine, pour faire sortir ce qui vraiment nourrit le corps, il faut enlever l'écorce. La klipa, la partie pas bien pour manger pour l'homme, il faut l'enlever. C'est la purification de la neshama de Mashiach. Alors avec ces mitzvot et des yisurim, il va sortir propre. Ça c'est heirichou. Rava Amar, non, le mot heirichou vient du mot reyach, odorat, de morach, vedain. Il peut sentir et il peut juger. Il peut juger entre le tzaddik et le racha avec, il peut juger entre le tzaddik et le racha avec des indications très fines. Il n'a même pas besoin des oreilles et les yeux avec l'odorat. L'odorat, on dit la neshama, elles sont l'odeur. Il y a dans la Gemara, Sota, qu'on dit qu'il y avait un rave qui avait un très bon odorat. Le père, il a dit, mon fils, je vois que tu as un bon odorat. Tu es kadosh. Tu as de la tahara, de la pureté. Grâce à ta pureté, tu as un bon odorat. La Gemara nous raconte, à notre époque, les fruits n'ont pas une bonne odeur. À l'époque des Beit Hamikdash, ils avaient une bonne odeur. Tant que les Juifs faisaient attention aux lois de Tum'a et Tahara comme il faut, eh ben, ils faisaient enlever la Tum'a, eh ben, les fruits, ils avaient une bonne odeur. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait pas attention à Tum'a et Tahara, et le bon odeur des fruits est parti. Il a dit, toi, mon fils, tu as encore un bon odorat, c'est une preuve qu'il te reste encore de la pureté. Il paraît que le coronavirus, il a enlevé un peu la bonne odeur. Bon. De Mourach Vedaïn. Ça veut dire que Mashiach, il peut juger facilement. Dirtiv, car le texte il dit, Velo mare eina vishpot. C'est pas avec les yeux, la vue de ses yeux qui juge. C'est-à-dire pas seulement avec les yeux, mais pas seulement avec les oreilles, mais avec l'odeur. Le Shafat Betzedek Dalim, il va défendre avec justice les pauvres. Il va réprimander Bemishor avec un discours droit, les modestes. Les modestes, c'est-à-dire les tzadikim, il va les réprimander droit, juste. Et les rechaim, il va carrément éliminer. Comme ça, la suite du verset. Bar Kuziba Malach Tartinchnin. Maintenant, comme la Gemara avait parlé de Mashiach, du vrai Mashiach, qui est Maruch Vedaïn. La Gemara nous raconte ici une histoire d'un faux Mashiach, d'un homme qu'on croyait qu'il est Mashiach, mais il ne l'était pas. Comment ça tombe ici? On verra à la fin de l'histoire. Bar Kuziba, Malach Tartinchninu Palke. Bar Kuziba, avant on appelait Bar Kochba, c'est 50 années après le Korban du deuxième Beit HaMikdash. Les Romains sont devenus archi-vulgaires. Ils ont interdit aux Juifs de faire la Brit Mila, d'enseigner la Torah. Tous les xérotes contre un juif religieux, c'était terrible. Jusque Bar Kokhba, il a décidé, on va faire la guerre contre eux, on va les mettre dehors. Il a fait la guerre, il a gagné bataille après bataille, phénoménal. Il a mis dehors les Romains, c'est phénoménal. Il a commencé à régner sur le Proche-Orient pendant 2 ans et demi, il a régné. Et Rabbi Akiva, il a vu les victoires, il a dit ça c'est Mashiach. Et comme Moshe Rabbeinu nous dit, Darach, Kochav mi Yaakov, va se lever une étoile de Yaakov, Vekam Beshevet Misrael, Machatzpa Temoa, Vekarkar Kol Beneshet, et Rabbi Akiva, il espérait, ça y est, probablement celui le Mashiach. Darach Kochav, donc on l'appelait Bar Kochba. Et ça a duré 2 ans et demi. Mais malheureusement, les Romains, ils ont amené garnison après garnison. Comme ils racontent, les Romains, ils ont amené les militaires qui étaient en Angleterre. Il a amené de l'Angleterre jusqu'en Eretz Israël pour venir en aide. Tellement Bar Kokhba était fort, il a battu tout le militaire romain. Et quand eux, ils sont venus, eux, ils ont massacré Bar Kokhba. La dernière ville de Beitar, et la Gemara nous raconte la destruction de Beitar était grave comme la Khorban du deuxième Beit HaMikdash. Des mourés de Chachamim et des Talmid de Chachamim Tzadikim dans la ville de Beitar, et tout s'est écroulé. Alors donc, on n'appelait plus Bar Kokhba, on l'appelait Bar Kuziba. Kuziba vient de la notion de Kazav. Kazav, c'est mensonge, comme en arabe, Kedav, c'est du mensonge. Bar Kuziba. Maalach Tar Tishnin. Amalouhou le Rabbanan, lui dit au Chachamim, Anna Mashiach, moi je suis Mashiach, je vais réussir à battre et je vais imposer le Malchou de Mashiach. Peut-être pas Mashiach ben David, peut-être Mashiach ben Yosef. Bon. Alors, Rabbi Kiva au début pensait aussi, Amroulé, ils ont dit, ben Mashiach Ketiv, chez le Mashiach il est écrit, de Mourach Vedain, il sent et il juge, il sait distinguer entre le Tzadik et le rachat avec son odorat. Nerze Anan, nous allons voir, nous allons vérifier. Imorach Vedain, si vraiment il a ce flair de juger correct. Kevan Echaziou de l'Omarach Vedain, et quand ils se sont aperçus qu'il se trompe dans son jugement, il n'a pas le bon flair, Katlouhou, ils l'ont tué. Alors à quel moment ils se sont aperçus qu'il n'est pas Morach Vedain? Alors, c'est ça, il y a toute une Gemara, Yerushalmi, dans Mesechet Ta'anit. La Gemara raconte à l'intérieur de Beitar, il y avait l'oncle de Bar Kokhba, il s'appelait Rabbi Eliezer ben Shamua. Il y avait beaucoup de Chachamim, entre autres, il y avait Rabbi Eliezer ben Shamua. Et la ville Beitar était entourée par les Romains. D'abord, il a perdu bataille après bataille, jusqu'à tous les soldats et les Chachamim, tout le monde était à Beitar. Et la ville était encerclée pendant 2 ans. 2 ans, je pense, elle était encerclée. 3 ans, je ne me rappelle plus. Alors, et ça tenait. Et de temps en temps, Bar Kokhba, il est sorti, et il a massacré chez eux, il est revenu. Il était super fort. Monsieur Superman. Bekitsour. Rabbi Eliezer ben Shemua, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a prié jour et nuit. Il faisait ta agnote, il a tfilat, que les Romains ne rentrent pas dans la ville. Alors, après, il y avait un Samaritain, il était parmi les Romains. Alors, le Samaritain, eux, ils n'aimaient pas les Juifs, les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Ils sont tous devenus des chrétiens après ces Samaritains. Depuis 6 siècles, ils étaient des demi-Juifs. Ils n'aimaient pas les Juifs, et les Juifs aussi, ils ne les aimaient pas. Alors, il a dit aux Romains, si vous voulez gagner contre cette ville, la première des choses à faire, il faut liquider ce rabbin, le rabbi Eliezer ben Shemua. C'est un tzaddik, il prie, Dieu l'écoute, vous ne pouvez rien faire. Il faut le tuer, ce gars-là. Ils ont dit, comment faire? Alors, il a dit, je vais vous l'arranger, l'affaire. Voilà comment un traître, comment il travaille. Alors, ce Samaritain, il est rentré dans la ville à travers les égouts. Il y avait un endroit dans le mur de mur de Bétar, il y avait des égouts. Alors lui, il est rentré par les égouts. Et il est rentré dans la ville et il est allé au Beit HaMidrash de Rabbi Eliezer ben Shemua. Il était en train de prier. Il s'est mis à côté de lui et lui a chuchoté des paroles dans l'oreille. Et Rabelais est venu chez moi, il faisait la tefila, il n'a rien entendu. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ce Samaritain? Il a quitté le Beit Midrash, il est sorti par les égouts, il est parti chez les Romains. Le lendemain, il est revenu, rentre au Beit Midrash, il chuchote dans les oreilles de Rabelais est venu chez moi, et il repart. Et comme ça, va, vient. Jusqu'à ce que la police de Bar Kokhba, ils ont remarqué la chose, ils ont dit, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un monsieur bizarre qui n'est pas de notre ville. On l'a vu, il parle avec ton oncle. Tous les jours, il vient. Et après, on voit qu'il sort, il va chez les Romains. Il revient, il va et vient. Alors, Bar Kokhba, il est parti chez son oncle. Il dit, son oncle, dis-moi, qu'est-ce que ce Samaritain, il t'a dit dans l'oreille? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Il a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Quel Samaritain? Qui m'a parlé dans l'oreille? Qu'est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors il a dit, j'ai compris. Bar Kokhba a dit, j'ai compris. Tu es en train de négocier la reddition, la capitulation de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un espion qui vient de l'extérieur et il te donne des conseils, toi des conseils. Tu es en train de fomenter un plan. Comment on capitule dans la ville? Et Bar Kokhba s'est énervé. Il a levé son pied. Il a donné un coup à son oncle. Son oncle était vieux, il est tombé et il est mort. À ce moment-là, une voix du ciel est sortie au Beit HaMidrash. Ça y est, le défenseur du peuple juif est niftar, Rabbi Elazar ben Shemua, ça y est, maintenant la ville s'écroule. Et ça ne durait pas longtemps, les Romains ils sont rentrés, ils ont fait un bain de sang dans la ville de Beitar. Maintenant, la Gemara nous dit ici, les Chachamim l'ont tué. D'ailleurs, les Chachamim ne le tuent pas. C'est les Romains qui l'ont tué. C'est-à-dire, les Chachamim, ils l'ont laissé tuer. Comme ils l'ont laissé tuer, qu'ils ne priaient plus pour sa victoire. Pourquoi ils ne priaient plus? Parce qu'il a tué son oncle. Alors, il s'est trompé dans le jugement. Pour Mashiach, on dit qu'il juge avec son flair, il se distingue entre la tzadik et le racha. À la Chach, ils ont dit, on va voir. Jusque ce jour-là, il a toujours tué quel Rechaïm. Il n'a jamais fait du mal au Tzadikim. Alors, ce moment-là, il a tué Rabbi Elazar ben Shemua. Il considère Rabbi Elazar ben Shemua comme un rachat, comme un traître. Or, Rabbi Elazar ben Shemua est un Tzadik. Alors, ils ont compris, on se trompait. Cet homme-là n'est pas Mashiach. Il se trompe entre le Tzadik et le rachat. Ils ont arrêté de prier pour lui. Et les Romains, ils ont rentré, ils ont massacré Daniel. Hanania, Mishaël, Vazaria. Maintenant, il descend encore de Boaz de Ruth. Hanania, Mishaël, Vazaria, ils étaient les descendants de Ruth à Moabia. Il est écrit là-bas, sur Ein Behem Kolmum. Ils n'avaient aucun défaut, ces trois. Vetove Mare. Il y avait un aspect qui était beau. Ou Maskilim Bechol Chokma. Ils étaient intelligents dans toutes les sagesses qui existent. Vyode Daat. Ils avaient de la force pour se tenir dans le palais royal où le lame d'Am Sefer Velashon Kazdim. Ils connaissaient la littérature et le langage des Babyloniens afin de gérer cet empire. Alors il y a ici six qualités. Emem Kolmum, il n'y a pas de défaut. Tov Mare, Maskilim Bechol Chokma. Yodedat, Umvine Mada, ils ont la force pour se tenir et apprendre tout ce qu'on a besoin pour gérer la Babylonie. Maintenant, la Gemara demande, Maya Sher En Behem Kolmum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'avaient pas de défaut. Amarabichama Bachanania, Afilo Keriv de Tekosilte, Lohave Buhu. Ils n'avaient même pas un défaut comme Riv de Tekosilte. Ça veut dire quoi? Quand on fait une saignée, comme un genre d'une piqûre, et on fait rentrer dans la veine ou dans l'artère, je ne sais pas dans laquelle, et on fait sortir le sang. Et à la fin, ça donne une petite sur la peau, une petite blessure, 2-3 mm. Même ça, ils n'avaient pas. Ils étaient parfaits. Maï, Vacher, Kouach, Bahem, Lamot, Beich, Alamelech, ils avaient de la force de se tenir dans les palais royaux. Et pourquoi on a besoin de la force? Pour se tenir dans le palais royal, Ami Rabbi Chama et Rabbi Chanina, Melamed Shayu Onsin et Atzman Minashok. Ils pouvaient chasser d'eux Shok, la rigolade, ou Minashicha, papotage, ou Minashina, du sommeil, ou Mamidin al Atzman, et pouvaient se retenir Besha Shenitzrechim le Nikvem quand ils devaient aller aux toilettes, Ipne Emat Malchut, par peur du roi. Ça veut dire, c'était des ministres acharnés à la disposition du roi. On rigole pas et on papote pas, on dort pas, est-ce que pas, un minimum. Et on peut même pas aller aux toilettes. Des fois, il y avait des réunions, sûrement chez Nebuchadnezzar, qui duraient 6 heures, qui duraient 8 heures. Des choses très animées et on doit aller aux toilettes. Non, on n'y va pas aux toilettes. On est là devant le roi. Ça veut dire, ils dominaient leur corps. Absolument, la Havdil aujourd'hui en Inde, il y a comme ça des gens qui dominent leur corps. Eux aussi, ils étaient capables. Ils avaient la force de rester dans le palais royal. Vayhi Bahem ibn Yehuda. Le texte, il dit, quand au début, dans le livre de Daniel, quand Nebuchadnezzar a conquis tout le pays, il a fait son école de politique pour créer des gens qui savent gérer la grande administration, comme en France, il y a des écoles de l'administration pour gérer le pays. Il faut, normalement, c'est les majeurs qui sortent de l'école polytechnique, soit polytechnique, soit de l'ENA, soit ce genre des écoles. Donc, eux, ils étaient les meilleurs, les majeurs. Vayi, Bahem, Mimne, Yehuda, il y avait parmi eux des gens de Yehuda, Daniel, Hanan, Michel, Bazaria. Amar Rabbi Eliezer, il a dit, Kulan mibnei Yehuda hem. Tous ils venaient de la tribu de Yehuda. Rabbi Shmuel bar Nachmeni Amar, Daniel mibnei Yehuda. C'était seulement Daniel des enfants de Yehuda. Et Hanan Mishal Bazari Mishar Shvatim. Eux, ils étaient des autres tribus. D'accord. Mais d'après ce qui est dit en haut, Shesh Seorim, le Chacham qui a dit Shesh Seorim, dit six grains d'orge. Les six grains d'orge étaient les six personnes qui descendaient de la tribu de Yehuda, de Boaz, de David. Et parmi ces six, il y avait Hanan Michel Bazaria. Donc, ce mandamar, il pense comme le premier. Et eux, ils aussi, ils étaient de... Eux aussi, ils étaient de Yehuda. Mais ce qui dit Hanan Michel Bazaria des autres Shvatim, ça ne fait pas partie de ces six personnes avec les six grains d'orge. Umibanecha asher yeitzu mimcha asher tolid yikru vayu serisim beichal melech bavel. Alors, ça, c'est on parle vis-à-vis du roi Chizkia. Le roi Chizkia est un tzaddik extraordinaire. Il a rendu des juifs bichouva, il a rendu service au peuple juif phénoménal. Mais après, il a fait un taout. Il a fait une erreur. Il a marqué qu'après qu'il a eu le miracle, qu'il était guéri et que le soleil reculait, et tout le monde entier était très impressionné. Qu'est-ce qu'il y a quatre jours qu'il a fait à Chizkia Melech? Alors, il a marqué que les goyms ont envoyé une délégation pour rencontrer ce roi. Et il les a fait rentrer dans son palais. Il les a fait rentrer dans le Beth Amikdash. Il leur a montré le merveille du Beth Amikdash. Il leur a montré même la Aaron HaKodesh. Peut-être il a montré même le Luchot, je ne me rappelle pas. Il leur a montré tout ce qui est dans le palais royal et au Beth Amikdash. Pourquoi il leur a fait ça? Est-ce que c'est un lien de prestige? Il pensait que les goyim étaient dans un élan d'être émerveillés du miracle que Dieu il a fait, le soleil qui recule. C'est phénoménal. Et après aussi le grand miracle que Sanhérif il est mort devant la porte de Yerushalayim, toute son armée était anéantie. Donc il se dit, ces goyim maintenant viennent, il faut les rapprocher à la Torah. Et donc, rapprocher la Torah comme Shlomo Melech, il voulait rapprocher tous les goyim à la Torah. Et il a exagéré après. Il s'est marié avec les princesses. Et le roi Chizkia n'a pas fait ça, mais il leur a montré le Beth Amikdash. Et le prophète, il est venu, et Chizkia lui dit, t'as fait une erreur, il ne fallait pas les montrer. Il ne faut pas montrer les secrets du peuple juif. Les choses que Doshim, ça reste un secret dans le peuple juif. Il ne faut pas, je ne sais pas si ils vont crâner le bon mot, on ne crâne pas devant le grand, on ne leur dévoile pas le secret. Il ne fallait pas faire ça. Alors toi, Chizkia, tu seras puni. Quelle punition! Tu auras des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Ils vont être des ministres dans le palais Goy. C'est-à-dire, c'est Hanan et Mishael Vazaria. Tes descendants, Hanan et Mishael Vazaria, vont gérer le monde Goy. Mais c'est dommage pour toi. Toi, tu es le roi juif. Ta descendance aurait dû gérer le peuple juif. Et malheureusement, ils sont obligés de vivre dans des palais Goy. Alors, le texte, il dit, « Mibanecha, tes enfants, asher yeitzou mimcha, qui vont sortir de toi, asher tolit, que tu auras, yikru, eux, ils vont prendre le goyim. » De la même façon que toi, tu as fait rentrer des gouverneurs Goy dans ton palais et au Beth Amikdash, eh bien, tes enfants, ta descendance va rentrer dans le palais royal. Ils vont être des gouverneurs et serviteurs dans le palais du roi Babel. Maï sarissim. C'est quoi la traduction exactement, le mot saris? Rav amar sarissim mamash. Des eunuques. Ils vont être des eunuques. C'est-à-dire quoi, des eunuques? Chez les goyim, la coutume a été que les rois, quand ils avaient besoin des gens qui sont jour et nuit à côté d'eux, ils les ont castrés. Pourquoi castrés? Comme ça, il ne se marie pas, il n'aura pas d'enfant, il sera complètement au service du roi. Il y avait d'autres raisons aussi, il y avait des rois qui avaient peur. Les rois, autrefois, ils avaient un harem, donc ils avaient beaucoup de femmes, qu'elles étaient à la disposition du roi. Mais ces femmes, il fallait les gérer. Donc, il y avait qui va les gérer? Des hommes. Mais ces hommes-là, ils vont abuser de ces femmes. Donc, on prenait des sirissim, comme il est marqué, comme Megillat Esther, Sris HaMelech, Shomer HaPilakshim. Ceux qui gardaient les concubines du roi Hashverosh, Sris HaMelech était un eunuque, il était castré. Alors, comme ça, il n'a pas de désir vers des femmes. Et ça, c'est une raison pour pas qu'elle abuse des femmes. Et une deuxième raison pour qu'il sera à la disposition. Un homme qui a une femme, qui a des enfants, s'il veut faire son devoir conjugal, son devoir familial, il doit s'occuper de ses enfants. Il doit nourrir sa femme. Il doit nourrir ses enfants. Il doit les éduquer. Il doit se promener. Il va parler avec eux. Donc, si un homme, il est au palais royal, un homme qui est un super ministre, forcément, s'il fait tout ce qu'il faut faire pour le roi, il négligera s'occuper de sa femme, de ses enfants. Il a une mission qui va l'occuper jour et nuit. Donc, le roi, pour s'assurer qu'il n'a pas de vie familiale, ils avaient le coutume de castrer. Maintenant, Hanan, Mishael et Azaria, ces pauvres, d'après Rav, on les a castrés. Donc, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Cet avis qu'il y a avant qu'ils avaient des enfants, d'après lui, ils n'avaient pas d'enfants. Et celui qui dit avant, ils n'avaient pas de défauts, ben, ils avaient eu un défaut. Lui, il ne pense pas comme le mandat Arachim Ben Moum qu'ils n'avaient pas de défauts. Ils avaient un défaut. Malheureusement, ils étaient castrés. Est-ce qu'eux, ils savaient qu'on va les castrer? Est-ce qu'au moment où ils ont rentré à l'école Léna, est-ce qu'on les a castrés au début ou à la fin? Une fois qu'ils sont devenus ministres, est-ce qu'ils savaient qu'on va leur faire? S'ils savaient qu'on va le faire, probablement, ils seraient d'accord. C'est interdit pour un juif de se castrer. Et se laisser castrer, mais c'est à moi aussi, c'est interdit. L'interdiction de faire le geste de castrer, c'est, on n'a pas le droit de castrer un homme, on n'a pas le droit de castrer un animal non plus. Mais bon, c'est le goy qui a castré, mais lui, il s'est laissé faire. Peut-être qu'il ne s'est pas laissé faire, mais il n'avait pas de choix. On les a attrapés, on ne leur a pas laissé le choix. Probablement, c'était comme ça. Ravamas risi mamash. Rabichanina amar, tout à fait une autre explication. Sirissim, ils étaient sirissim, c'est pas castré physiquement. L'idolâtrie se fait castrer. Ces trois hommes, parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant l'idole, et ils se sont fait jeter dans la fournaise, et ils sont sortis vivants, le monde goy est revenu de l'idolâtrie. Ça donnait une bombe atomique sur la tête de tous les idolâtres. Nous connaissons ça comme il est marqué dans le livre de Daniel. Daniel a envoyé une lettre à tout son royaume. Vous respectez les dieux des juifs, il n'y a pas comme les dieux des juifs. Et donc, ça a mûri chez les goïms, c'était un grand claque Avodhazara a perdu sa force. Et après, tout de suite, c'était Socrate et Platon qui sont venus, et Aristo, et eux, ils se sont moqués de l'idolâtrie. Ils étaient des sages. Ils ont changé le monde, doucement, doucement, changé le monde pour se déshabituer. Tout l'idolâtrie, tous ces cirques qui étaient, jusqu'à cette époque dans le monde, il y avait le cirque des dieux, les dieux qui dominent, etc., etc. Donc leur tribu, leur Messirot Nefesh d'être là-bas, de rentrer dans la fournaise, de ne pas se prosterner, ça castrait l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on les appelle Srissim. Donc, si nous traduisons le mot sérissime, que la Vodazara se fait castrer. Aïnou dirtiv, dans ce cas-là, je comprends, vechaval, loïte, behon. Ils n'avaient aucune blessure. Parce qu'ils n'étaient pas castrés. Ils étaient en pleine forme. Et le mandama sérissime, mamash, mais d'après celui qui dit qu'ils étaient castrés, maï vechaval, loïte, behon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'avaient pas de blessure. Ils avaient une blessure. Avala de Noura. Ils n'avaient pas de blessure de feu. Ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas de blessure de feu. Le feu de la fournaise ne les a pas blessés. Vagmara dit, va active, mais c'est marqué, Vereyach Nour, lo Adad Bohon. Il n'y avait pas d'odeur de feu, lo Chavala, v'loricha, ni de blessure et ni d'odeur. Rien. La Gemara nous dit, Bishloma, ça va bien le mandama, ce qui dit chez Nistar, ça vaut des arabes mehem, qu'ils ont castré la voix des arabes. Aïnou dichtiv, quoi marachem la serissim, chéishmo et chaptotai, ou bacharou bacher chafatsti, marzigim et briti, natati lehem, yad vachem, tov ibanim ou banol, chémolam et en l'eau, asher le keret. Le verset il dit, Dieu il dit aux sarissim, aux gens qui sont sérissim, qui respectent Shabbat et qui respectent la Torah et qui se comportent comme il faut, je leur donne un nom inscrit dans ma maison Beth Amikdash, Tov mi banim ou banot, mieux qu'un homme qui a des garçons et des filles. Un homme qui a des garçons et des filles, alors ça lui reste un nom. Non, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, son nom continue à exister. Maintenant, le prophète il dit, les sérissim qui font la Torah, je vais graver leur nom au Beth Amikdash et ce nom, ce prestige, cet honneur, il sera mieux que de laisser des garçons et des filles. Alors, qui sont ces sarissimes? Ces sarissimes, c'est Hanani, Mishael, Vazaria. Alors, si nous allons dire que les sarissimes, ça veut dire que la Avodazara a été enlevée, castrée dans leur époque. Donc, c'est une louange qu'on parle d'eux. Donc, on comprend le verset. Dieu, il dit aux sarissimes, qui gardent le Shabbat, qui gardent les mitzvot, ils auront éternellement un nom dans le Beth Amikdash. Et le mandama sarissim, mamash. Et ce qui dit sarissim, c'est dire castré, mishtai, ekra, vignuta, de tzadika. Est-ce que la Torah parle de gnout, les sarissim, les castrés? C'est comme si on méprise un peu leur condition. Ça veut dire que le prophète, il dit, Dieu il dit, oh, c'est castré, que malgré que vous n'avez pas des garçons et des filles, mais le nom, je vais graver votre nom, je vous ai des tzadikim, vous êtes gardé Shabbat, vous respectez les mitzvot, je grave votre nom au Beth Amikdash, il sera mieux que des garçons et des filles. Vous n'avez pas de garçons et des filles, vous êtes castré, mais quand même, votre nom, il sera encore mieux. Mais en fin de compte, Sarissim, c'est dire castré. C'est un mépris. Pourquoi la Navi parle comme ça? Voilà les trois castrés. C'est pas joli, on parle pas comme ça. La Gemara nous dit ha, ve ha, ha, ve behu. Le mot saris, d'après un avis, ça veut dire avant de s'arrêter été castré. C'est cool ou bien. Après l'autre avis, c'est aussi castré physiquement. Mais c'est aussi, avant de s'arrêter a reçu un coup. Il y a les deux pshatim vrais. Et quand le prophète, il dit la sarissim, il faut pas le prendre que la partie gnout qu'ils étaient castrés, il faut aussi sarissim, les gens qui ont réussi à détruire la Vodazara dans le monde. Bishlama, le mandamar sarissim amash. D'après ceux qui disent que c'était vraiment castré, haïn et dechif, je comprends, mais beiti, je mets dans ma maison, ou bechomata, et dans mes murs, yad, un souvenir, le shem tov, un nom, tov, mieux, mi banim ou benot. Les pauvres, ils n'ont pas d'enfants, mais au moins, ils ont gravé au Beit HaMikdash. Elle est le mandamar shenishtar savodazar bimehem. Mais si tu dis que la vodazara a été enlevée, mai tov mibanim ou beonot, qu'est-ce que ça veut dire mieux que des garçons et des filles? Ça veut dire quoi? Mais ils peuvent avoir des garçons et des filles. S'ils n'ont pas castré, ils peuvent avoir des garçons et des filles. Abraham Yitzhak, mibanim shahay ou lehem kvar, va metu. Ils avaient des enfants qui sont morts. Ils n'étaient pas castrés, mais ils avaient des enfants, mais ils sont morts. Et il dit, malgré qu'ils sont morts, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous aurez quelque chose encore mieux. Votre souvenir est au Beit HaMikdash encore mieux. Mai shem onlam eten lo asher lo yikaret. Je vais donner un nom éternel asher lo yikaret qui ne va jamais disparaître. Une renommée qui ne va jamais disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Tanhum, Darash bar Kapara be Tzipouri. Bar Kapara, il a fait un discours dans la ville Tzipouri. Ze Sefer Daniel, je nikra al shemo. Le livre Daniel est appelé en son nom. On l'appelle ça le livre de Daniel. Hanani, Mishael, Vezaria. Daniel fait partie de Kitvei HaKodesh. C'est un grand sroot, un homme, que c'est. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. On parle de Hanani, Mishael, on parle de Daniel. Il aura un sroot que ce livre, il s'appelle en son nom. Alors, la Gemara nous dit, Mech de Kolmile de Ezra, Nehemiah ben Chakalia Amrinu. Le livre de Ezra, il y a un livre qui s'appelle Ezra et un livre qui s'appelle Nehemiah. En vérité, Chazal n'appelle ça pas Ezra et Nehemiah. Tout il s'appelle Ezra. Le livre de Ezra, Chachamim connaissent le livre de Ezra. Il y a deux parties. La première partie, on parle, partie la plus importante de Ezra. Et la deuxième, Nehemiah, on ne parle pas d'Ezra. On parle l'histoire de Nehemiah. C'était des copains, Ezra et Nehemiah. Nehemiah était le numéro 2 de Anshe Knesset Agdola. Quand ils ont fait ils ont fait signer tous les chefs des Juifs d'être fidèles à la Torah, des mitzvot, de respecter la Torah comme il faut. L'initiative a été prise. Le premier qui a signé, c'était Nehemiah, sous l'impulsion d'Ezra. Alors, mais le livre de Chazal, il s'appelle Ezra. Mais en vérité, c'est Nehemiah qui a écrit. Kol mila de Ezra, Nehemiah ben Chakalia amrinu. Tout ce qu'Ezra il a fait, c'est Nehemiah qui a écrit. Mais Nehemiah ben Chakalia maïta maloïk resifra al shemé. Pourquoi le livre, la deuxième moitié de Ezra, qui parle que de Nehemiah, pourquoi on l'appelle le livre de Ezra? Pourquoi Chachamim n'appelle pas Nehemiah? Chez nous, aujourd'hui, on l'appelle Nehemiah. Mais eux, ils ne l'appelaient pas. Pourquoi? Ce livre s'appelle pas Nehemiah. Amar Rabbi Yirmiyahu bar Abba, mipnei she'ehzik tova la'atzmo. Parce qu'il se jetait un peu des lauriers à lui-même. Chez Neymar, le texte dit Zachal Yelokai le tova. Que Dieu me rappelle pour le bien ce que je fais. Daniel, Nehemiah, il a fait beaucoup de choses. Il a défendu les Juifs devant les attaques. Il a fait une révolution sociale. Les Juifs qui ont entré en Eretz Israël, il y avait beaucoup de riches. Et les riches, ils se sont servis des pauvres. Ils ont demandé beaucoup des impôts. Et les pauvres, ils pleuraient. Ils n'ont pas assez à manger. Et les riches leur prenaient tout. Et Nehemiah leur a fait la guerre. C'était Jaurès, Avdil, Ben-Tamelet-Or. Il a crié sur les riches. Et vous allez arrêter de prendre les pauvres comme esclaves. Et je vous oblige d'abandonner la dette des pauvres. Les pauvres, ils avaient des immenses dettes vis-à-vis des riches. À cause de ces dettes, ils étaient obligés de travailler un travail dur. Donc, Nehemiah, il a dit, j'ai interdit de prendre l'argent, vous abandonnez. Et les gens, ils écoutaient Nehemiah. Les riches, ils étaient respectueux, ils respectaient. Ils ont abandonné la dette. Ils ont libéré les Juifs. Et il a changé complètement le rapport riche et pauvre au début du deuxième Beit HaMikdash. Et sur ces, et Mechadesh le Shabbat, Mechazek le Shabbat, il y avait des Juifs qui transgressaient Shabbat et Tamaretz. Il y a des Juifs qui faisaient un peu de business. Il y a des Juifs qui pressaient les raisins pendant Shabbat. Ils achetaient des poissons chez les goyim pendant Shabbat. Et Nehemiah leur fait la guerre. Il a dit, si vous continuez à faire Chilou Shabbat, à quoi ça sert? Pourquoi vous êtes venus au Shalaim? On était à Babel à cause de ne pas respecter les mitzvot. Maintenant, vous respectez les mitzvot. les Juifs, ils ont arrêté, et Shibirat Shabbat, il a renforcé tout. Et quand il a fait ça, Nehemia, il dit, Zachra li Elokai le Tova, que Dieu se rappelle de tout le bien que je fais. Je fais pour Dieu, pour la Torah, pour le peuple juif, que Dieu me rappelle ça. Et ça, ça s'appelle se jeter des lauriers. Et ce n'est pas joli. Alors, il était puni. Quelle est sa punition? Que ce livre ne s'appelle pas le livre de Nehemia, ça s'appelle le livre d'Ezra. Dès qu'un homme il cherche le prestige, sans prestige, il part. Ça, c'est la confirmation de ce qu'on voit dans la Mishnah d'Empire Kehavot. Kol harodef achar hakavod, ceux qui courent derrière l'honneur, le kavod se sauve. Et ceux qui se sauvent du kavod, le kavod lui court derrière. C'est comme ça. Il a dit que Dieu se rappelle pour moi. Tu n'as pas besoin d'écrire dans ton livre que Dieu te rappelle. Dieu va se rappeler. Tu peux le penser dans ton cœur, tu peux le dire. Tu n'as pas besoin d'écrire, voilà quelles grandes choses que je fais. Ça, c'est des autres, ils doivent le dire. La règle dit, comme dit Shlomo Melech, Yalel Chazar Velopicha, qu'un étranger te donne du louange, mais pas ta propre bouche. Un homme, je suis le meilleur installateur, je suis le meilleur musicien, je suis le meilleur, je ne sais pas quoi. Tous les. Un homme ne doit pas dire, moi je suis champion. L'autre dit que tu es champion. Que l'autre dit que tu es un meilleur installateur. Que l'autre dit que tu es un meilleur écrivain. Et il ne faut pas que l'homme y prenne lui-même. Il y a l'El Khazar, que l'étranger le dit. On raconte sur quelqu'un qui aimait de se mousser. Je suis le meilleur. Alors une fois, quelqu'un lui dit, monsieur, vous ne faites pas comme Shlomo Melech, il a dit, Yalel Khazar Velopicha, qu'un autre il doit vous donner des louanges et pas votre bouche. Il a dit, non, mais j'interprète autrement le verset de Shlomo. Moi, j'interprète comme ça. Yalel Khazar, qu'un étranger te donne des louanges, velo, et sinon, si aucun étranger te donne des louanges, picha, alors c'est ta bouche. Quand personne ne veut me donner des louanges, alors je le dis moi-même. Alors, Nehemia le dit, Zachali Elokai le Tuva. La Gemara pose une question. David Nama Meimar Amar. Mais David Amelech, il a dit la même chose. Il a dit, Zachreini Hashem Birtson Amecha. Rappelle-toi, Dieu Birtson Amecha. Rappelle-toi le ratson, la bonne volonté du peuple. Rappelle-moi, Pogdeini Bishua Techa. Rappelle-toi de me sauver. Alors, aussi, il dit le mot, Dieu, rappelle-toi de moi. Là, on a dit, David, Rachmehu de Kabay. David, il était en train de prier. David était dans une situation difficile. Il fallait qu'il prie, Dieu, rappelle-toi de moi. Mais chez Nehemia, c'était caniré, il n'était pas en danger quand il a dit ça. Ce n'est pas qu'il devait prier. Mais il a dit, je mérite, comme pour dire, je mérite que Dieu va se rappeler de moi sûrement, parce que vraiment je méritais une aide de Dieu. Eh bien, son nom a disparu et ce livre ne s'appelle pas en son nom. Rav Yosef Amar. Rav Yosef, il a donné une autre raison. Pourquoi le livre de Nehemia ne s'appelle pas Nehemia, il s'appelle Ezra. Neche siper bignutan shel rishonim. Parce qu'il parlait un peu de Lashon Hara sur le ministre avant lui. Avant que Nehemia est devenu le chef ministre à Yerushalayim, mais avant lui, il y avait d'autres. Parce que lui est venu un peu plus tard. Comme il a été le chef des chansons du roi en Perse, le fils de Esther, qui gérait la Perse, et bien lui, il était à sa table, il lui donnait le vin. C'était le fils d'Esther, c'était un juif. Et lui, il donnait le vin au roi. Bien sûr, il donnait le vin pour qu'il boive du vin cachère et aussi pour lui donner des bons conseils. C'est lui qui est Nehemia qui a soufflé à Dariavesh, Koresh Dariavesh, le deuxième, pour qu'il permette la construction du deuxième Beth Mikdash, pour qu'on ait de l'argent, qu'il protège les juifs, etc. Et la fameuse lettre que Koresh, il a envoyé à Ezra. Il a donné à Ezra une lettre qu'il a le droit de créer un état religieux, qu'il a le droit de nommer des rabbanim, d'ayanim partout, qu'il peut obliger les juifs de faire la Torah, à Icar qu'il amène les impôts au roi de Perse, Et il a dit, tous les gens qui travaillent au Beth Amikdash sont dispensés des impôts. Le Kitsour, la fameuse lettre qu'Ezra a reçue de pouvoir gérer un pays religieux, nommé par le roi Dariavesh, il a le pouvoir absolu. Tout ça, comment Dariavesh a eu cette idée? Ça venait bien sûr de Mordechai. Mordechai a pris les partenaires d'Israël et Nehemiah il est resté encore là-bas. En tout cas, quand Nehemiah est venu en Eretz Israël, il a vu qu'il y avait des gouverneurs qui géraient mal. Et lui, Nehemiah, il les a foutus dehors et il a changé la politique. Donc, il a parlé mal. Il ne fallait pas parler mal. Rabbi Yosef Amar m'ibne chez Siper Bignoutan chez les Rishonim. Il parlait du Gnout. Il parlait mal des ministres avant lui. Chez Neymar, va Pachot à Rishonim. Pachot, c'est une chanson de Pecha. Pecha, c'est Pacha. Pacha, c'est gouverneur. À Pachot à Rishonim, les gouverneurs, les premiers, Asher Lafanaï qui était avant moi à Yerushalayim, Ichbidu al Ha'am. Ils ont mis une charge sur le peuple. Il prenait pour le pain et le vin, il prenait des prix trop chers. Et moi, j'ai changé, j'ai baissé les prix. Donc, il parlait la Shonara. Quand on parle la Shonara, c'est pour ça que son nom n'est pas marqué. On ne parle pas de la Shonara. Va'afal Daniel, Shegadol Mimenu, Siper. Il parlait même la sonora sur Daniel. Même sur eux, il parlait mal. Il dit ceux qui étaient avant moi. Minanan de Gadol, d'où on sait que Daniel était plus grand. Irtiv car il est marqué, Varaïti ani Daniel evadi et amare, Vanashim asher ayu imi, lor ouet amare, aval cherda gdola nafla alehem, vanivrechu behechavé. Alors, Daniel, il était en Babylonie et il y avait là-bas des prophètes avec lui. Et à un moment, Daniel, il a eu une vision phénoménale. Et il y avait des hommes autour de lui, mais les autres, ils n'ont pas vu la vision. La vision que Daniel a vue, comment Mashiach va venir, les calculs, toutes sortes, tout le futur. Lui, il les a vus et les autres, ils n'ont pas vu. Mais ils tremblaient de peur. Ils avaient une immense peur. Le texte, Daniel avait dit Tamaré. Moi, j'étais seul de voir cette vision quand le malach était devant lui. Les hommes qui étaient avec moi, ils n'ont rien vu. Une immense peur. Ils ont été terrorisés, paniqués. Ils se sont sauvés pour se cacher. Alors, Maninhu Anashim, qui étaient les hommes qui étaient à côté de lui? Amar Abirmia, Vitem Rabbi Baraba, Zechagai, Zecharia ou Malachim. Chagai, Zecharia et Malachim étaient trois prophètes qui après ils étaient au deuxième Beth Amikdash. Et eux, ils étaient tout au début du deuxième Beth Amikdash, avant qu'elle ait été construite, 18 années avant. 18 années avant le début de la construction de deuxième Mesidas, il y avait déjà des corbanotes que eux sacrifiaient. Chagai, il a reçu une prophétie. Il faut commencer à faire des corbanotes, même s'il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Et pendant 18 années, il demandait la permission. Et ça, c'est les fameuses histoires. Le premier Koresh, il a donné d'abord la permission. Après, il a retiré parce que les enfants de Haman et les Samaritains qui étaient au Shalim, ils ont envoyé les fameuses lettres pour interdire de construire le Beth Amikdash. Alors donc, ils ne pouvaient pas, pendant 18 ans, ils ne pouvaient pas construire. À l'époque de Ahasuerosh aussi, on ne pouvait pas construire le Beth Amikdash à cause de la Shanara, que les Samaritains, les enfants de Haman racontaient. Tout ça, c'est marqué dans le livre d'Ezra. Alors, en tout cas, Chag, Ezra et Malachi, ils étaient 18 années avant la construction du Beth Amikdash, ils étaient déjà à Jérusalem. Mais avant ça, ils étaient en Babylonie. Et ils étaient avec Daniel. Et Daniel, il a eu une vision, eux, ils n'avaient pas de vision. Inhuadi Feminei. D'un côté, eux, ces trois, Ragasra Malachi, ils étaient plus grands que Daniel. Vihu Adif Menayu. Et de l'autre côté, lui était plus fort qu'eux. Inhuadi Feminei, eux, ils étaient plus forts que lui. Inhu Nevi et Vihu Lav Navi. Daniel ne compte pas parmi les prophètes. Il avait Ruach HaKodesh, c'est un degré en dessous de la prophétie. Eux, ils étaient prophètes, ils entendaient la voix d'Hachem. Et lui n'entendait pas la voix d'Hachem. C'est Malach qui lui a transmis. Pense à ce sujet-là, quelle est la différence entre Ruach HaKodesh, Navi, comment la Navi il va, la Rambam. La Ravad, c'est une le Ramban. Il y a une grande discussion. La Rambam, il dit que tous les Navi, ils vont à travers un prophète. La Ramban, il dit non, ce n'est pas par un prophète, c'est plus en gros qu'un prophète. Mais ici, en tout cas, dans la Gemara, Daniel est vu un prophète, mais il n'est pas encore Navi. Même d'après la Rambam, le Navi va par un prophète, mais pas chacun il va par un ange. En fait, la Rambam dit que le prophète il va à travers un ange, mais pas chacun il va un ange et prophète. Daniel, il a vu l'ange, mais il n'est considéré pas comme prophète. Eux, ils sont plus forts que lui. Inu Navi, eux, ils étaient prophètes, voilà, Navi. Mais lui, il est plus fort que eux. Et Iouchaza, lui, il a vu cette vision, la fameuse vision, l'histoire du monde jusqu'à Mashiach va venir. Mais eux, ils n'ont pas vu cette vision. Mais du moment qu'eux, ils n'ont pas vu cette vision, alors pourquoi ils avaient tellement peur? Les textes disent qu'ils étaient terrorisés, ils se sont sauvés, tellement ils avaient peur. Mais si eux, ils ne voient pas l'ange, pourquoi ils avaient tellement peur? La Gemara nous répond, même qu'eux, ils n'ont rien vu, leur mazal a vu. Ça veut dire quoi, leur mazal a vu? C'est quoi le mazal? Alors, mes frères, si m'explique que chaque homme, il a un mazal au ciel. On avait déjà parlé une fois que même un arbre, il a un mazal au ciel. Chaque herbe, il a un mazal au ciel. C'est un malach qui lui dit pousser. Mais un homme aussi, il a un mazal au ciel. Ça veut dire, c'est le chorge de Sanachama, la racine de Sanachama. Et dans le corps humain, il y a la fin de Sanachama. Comme si l'Anachama, elle est pas, une partie, elle est au ciel, et une partie sur terre, il y a une espèce de fil qui les communique, avoir wifi. Ça veut dire, les hommes sur terre, ils ne voyaient pas l'ange. Mais la partie âme qui est au ciel, elle voyait l'ange. Et la partie de ces trois hommes, Chagesra et Malachi, leur partie âme qui est au ciel voyait l'ange. Donc, comme ils voyaient l'ange, ils avaient terriblement peur de voir l'ange. Ils avaient tellement peur que les trois hommes en dessous, là, qui avaient sept neshama, tremblaient aussi. Mais ils n'ont rien vu. Mais ils tremblaient quand même. Pourquoi? Il y a quelqu'un en haut qui bouge la corde très fortement. Alors, la partie corde qui est en bas, elle bouge aussi un petit peu. Donc, eux, ils ont senti une immense peur. C'est parce que leur neshama sentit. Amar Ravine, Ravine dit, Shema Mina, ici une preuve, Haïman de Mavit, quelqu'un qui a une attaque de panique. On parle d'une attaque panique, une attaque de panique qui ne vient pas à cause comme ça, un événement, quelque chose de spécial. Haïman de Mavit, c'est une attaque de panique. Un homme qui d'un coup il a peur, une grande, il est saisi par une terreur terrible, c'est qu'il y a un danger, mais il ne sait pas pourquoi. Mais son mazal a vu qu'il y a un danger. Donc il donne une indication à l'homme, fais attention, tu te trouves en danger. Mais ce n'est pas chaque peur, c'est pas ça. On ne veut pas dire chaque fois qu'un homme il a peur, parce que la peur c'est un phénomène qui peut arriver pour beaucoup, beaucoup de raisons. Pourquoi un homme il a peur? Pas chaque fois quand on a un peur, c'est un simon minéchemaï, mais il y a certaines attaques qui viennent des fois, ça bouge pour avoir, qui bouge l'homme. Maïta Kanté, qu'est-ce que l'homme quand il a cette fameuse attaque, quelle est la solution? L'inchof midouchte arba gamida, qu'il quitte arba amot. Des fois, il y a quelqu'un qui veut lui tirer dessus et c'est mieux, j'ai éloigné quatre coudées, comme s'il y a un xéra sur lui. Inam l'ika kriyatchema, ou qui fait kriyatchema. En fait, ici, il est dans un endroit sale qu'on ne peut pas faire Kriyat Shema et il ne peut pas bouger. Il y a une formule magique, ça je ne sais pas quel est le sens, le reste non plus, mais en tout cas ici c'est sûr que je ne sais pas. Il dit, les chèvres chez le boucher sont plus gras que moi, ne me cherchez pas. Je ne suis pas un gros calibre pour que vous êtes obligé de m'abattre. C'est-à-dire, normalement, les gens d'un grand prestige, un président, un homme riche, on veut l'abattre, il a des ennemis. parce qu'ils jouent un grand rôle. Un président d'un pays, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, tous les gens frustrés sont fâchés de lui, etc. Ou les gens qui voulaient sa place. Donc on veut l'abattre. Donc il a besoin de protection. Mais un simple homme, personne ne veut du mal de lui. Donc il y a un proverbe qui se dit, les chèvres chez le boucher sont plus gras que moi. Ne me cherchez pas, je ne suis pas important. Un homme qui n'est pas important, qui ne compte pas grand-chose dans la société, n'a pas besoin que quelqu'un veuille lui faire du mal. Personne autour de lui, il ne représente pas de danger. Alors donc, un homme qui a une attaque de, panique, et un simam inishan qui est en danger, donc il quitte quatre coudées, une autre place, il n'est plus en danger. Ou qu'il fait crier Tchema, ça protège, et s'il ne peut faire ni ça ni ça, il dit, mais de toute façon, à l'abattoir, il y a des chèvres plus gros que moi. Moi, je suis insignifiant. Donc, il n'y a pas de raison que vous êtes jaloux de moi d'essayer de m'abattre. À demain. Kol tov.